C'est l'heure de retrouver à 8h moins le quart Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Aujourd'hui, jour de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, vous nous parlez de bleuets et de coquelicots.
Et oui, nous verrons beaucoup aujourd'hui de personnalités, du moins je l'espère, arborer à la boutonnière un bleuet, une fleur devenue l'emblème de cette terrible guerre.
Mais d'ailleurs, le bleuet n'a pas été choisi par hasard.
En 1914, au tout début des hostilités, les vétérans portent un pantalon de couleur rouge, rouge garance pour être précis. La nouvelle classe porte le nouvel uniforme et celui-ci est bleu. Les nouveaux sont donc appelés par les anciens, comme aujourd'hui d'ailleurs, les bleus, et les militaires les plus jeunes, les bleuets. En 1916, Suzanne Lennart et Charlotte Malter souhaitent venir en aide aux milliers de soldats horriblement mutilés. Pour être efficace, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, et les deux femmes ont alors l'idée de confectionner et de vendre des bleuets en tissu. Cette tradition perdure toujours et c'est heureux.
Alors, le bleu en France, mais en Angleterre, c'est du rouge. Le coquelicot symbolise les victimes de guerre.
Et pas seulement celle de la Première Guerre mondiale, mais aussi de tous les autres conflits, comme la guerre des Malouines et celle du Golfe. Pour les Anglais, les Canadiens et les Australiens, le poppy, un coquelicot en papier épinglé sur un revêtement, est porté le jour du souvenir, Remembrance Day, pardonnez mon anglais, donc qui est fêté là encore le 11 novembre.
Pourquoi avoir choisi ce coquelicot ?
En 1915, la guerre fait rage et les soldats anglais meurent par milliers. Nous ne sommes pas à Verdun, mais en Belgique, dans les Flandres. Tous les matins, les corps des malheureux sont évacués et tous les matins fleurissent de nouveaux coquelicots. Ces taches rouges sont autant de souvenirs qui rappellent aux vivants que des jeunes garçons sont morts.
Parlez-nous de John McCrae.
Oui, c'est un officier âgé de 43 ans qui perd son meilleur ami dans les tranchées d'Ypres, une ville allemande. En hommage à celui-ci, il écrit un poème. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur.
En France aussi, d'ailleurs, le coquelicot fut un symbole de liberté.
Une première fois en 1789 et lors de la Commune en 1871. Sachez enfin que le coquelicot tient son nom de la couleur rouge de la crête du coq, coq, cocorico, coquelicot.
Gentil coquelicot, mesdames. Merci Alain Baraton.
Gentil coquelicot, messieurs.
Messieurs, évidemment aussi. J'en profite pour vous donner rendez-vous à 14h aujourd'hui. Denis Chessou, CO2 Mon Amour, à propos de la forêt de Verdun, entre mémoire et renouveau. Ça vous intéressera très probablement. Alain Baraton, des questions des auditeurs à présent. Alain Baraton, vos réponses. Bruno, par exemple, vous demande, est-il facile de multiplier des coquelicots pour en avoir chez soi?
C'est très compliqué. Je me suis souvent rendu compte que les plantes dites sauvages étaient, j'allais dire, difficilement domesticables. Prenez l'exemple de l'ortie. Eh bien, vous transplantez un pied d'ortie pour le mettre dans votre jardin, vous verrez que ce n'est pas aussi simple. Et pourtant, Dieu sait, si lorsque lui a décidé seul de s'installer chez vous, il y va sans aucun complexe. La même chose pour le chardon. Le chardon se multiplie facilement, mais essayez d'introduire chez vous la plante, vous verrez, ce n'est pas toujours facile. Le coquelicot est une plante que j'aime beaucoup, et c'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle est devenue un symbole de liberté. Le coquelicot ne supporte pas la captivité, il ne supporte pas d'être coupé par exemple et d'être offert en bouquet. Cueillez une fleur de coquelicot, elle fane pratiquement instantanément. Mais fort heureusement, les jardiniers et les botanistes sont talentueux. Il existe aujourd'hui des graines de coquelicot, donc ne vous embêtez pas à vouloir les ressemer. Achetez-les, elles sont prêtes et elles sont, comment dire, facilement utilisables. L'occasion de rappeler que le coquelicot également a réussi à lutter contre les désherbants de manière incroyable. On parle beaucoup en ce moment de Monsanto. Le coquelicot a réussi la chose suivante. Il y a 30 ou 40 ans, le coquelicot mourait à cause des herbicides qui étaient régulièrement mis. Eh bien, le coquelicot a transformé sa manière de se reproduire. Les graines de coquelicot qui autrefois germaient l'année suivante, eh bien maintenant ne germent pas toute l'année suivante. Elles s'espacent dans le temps. 10 à 15% germent l'année suivante, d'autres 20, de 5, 10 ou 15 ans plus tard, ce qui permet que le coquelicot a été capable, eh bien, de se maintenir face aux agressions régulières dues aux herbicides.
Et pour avoir des coquelicots chez soi, on peut aussi s'acheter un tableau de monnaie.
Bon, tout à fait, c'est
beaucoup d'argent.
C'est pas tout à fait le même prix.
Gladys vous demande, est-il encore possible en ce moment de semer du gazon ?
Alors, oui, si l'on est en ville, oui, si le gazon est entouré de murs qui vont la nuit restituer la chaleur. Attention, le gazon a besoin de chaleur, bien sûr, pour germer, mais également pour se développer. Donc ne le faites que si vraiment il est en situation privilégiée, parce que ce n'est pas le tout qu'il germe et qu'il sorte, encore faut-il qu'il se maintienne.
Thérèse vous dit, je ne sais pas comment arroser une corne d'élan. C'est quoi une corne d'élan?
Le Platyphyrium bifurcatum, c'est une plante qui donne des grandes feuilles, qui a la particularité de n'avoir pas besoin de terre. Déjà, déjà à l'origine, elle est épiphyte, elle vit en l'air, elle vit accrochée aux arbres, elle produit une feuille, cette feuille va mourir, en se décomposant, elle permettra à une deuxième feuille de pousser par-dessus, etc. Et elle ressemble vraiment à des cantes d'élan, à des cantes de serre. Donc c'est une très belle plante. Eh bien, on l'arrosera par le dessous, la plante déteste tremper dans l'eau, on la pulvérisera également régulièrement, car elle a besoin de beaucoup d'humidité, on la préservera des rayons du soleil, cette plante étant épiphyte, elle pousse donc au pied des arbres ou dans les arbres, donc à l'abri du soleil. Donc c'est pas une plante facile à conserver.
Bastien vous demande, Alain, quelle est la distance idéale à respecter quand on plante des arbres en alignement?
Ce qu'il faut surtout, c'est connaître le développement des arbres adultes. Il est évident qu'un chêne a un développement adulte qui inclut une circonférence du branchage importante, contrairement au peuplier, qui lui va être fastigié. Donc des peupliers peuvent pratiquement être plantés tous les 2 ou 3 mètres, mais pour des arbres de type tilleul, par exemple, ou chêne, une distance minimale de 8 mètres, j'ai bien dit minimale, est fortement recommandée. Ne vous fiez pas aux monuments historiques qui ont toujours tendance à planter trop près, c'est une erreur. Il faut toujours permettre à la plante de se développer harmonieusement.
Mais pour les cyprès, par exemple, mon cher Alain, on peut les
planter très près, très parce qu'il faut que l'air puisse circuler tout autour, il faut que le soleil puisse circuler. Mais les cyprès peuvent être plantés tous les 2 mètres.
Les cyprès qui portent très bien leur nom, donc visiblement. pas de conseils aujourd'hui?
Un de lecture. On est bientôt à Noël, donc Succulente. C'est un bouquin édité aux éditions Ulmer, très beau livre de photographies et de textes de Thomas Balaye et Frédéric Potts. C'est vraiment tout sur les succulentes, des plantes très belles.
Merci Alain Baraton, il est 7h51.